Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
On sait très bien qu'en entreprise, il y a le côté qui est un côté qui est important, qui est le financement. Et le financement, souvent, on fait appel au crédit avec intérêt. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont accès à ce crédit pour pouvoir développer leur activité. Et nous, en tant que musulmans, ce crédit le crédit avec intérêt donc, est illicite.
Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Rabia Tebiel, consultante en finance et en création d'entreprise. Au cours de ses études et de ses différentes expériences, Rabia s'est rapidement rendu compte que son éthique était heurtée par les pratiques traditionnelles de la finance. C'est pourquoi elle a décidé de prolonger son apprentissage en se formant à la finance islamique et de se mettre à son compte. À ce jour, Rabia a accompagné des centaines d'entreprises et de particuliers dans la définition de leur stratégie d'épargne et d'investissement éthique.
Au-delà de toutes nos activités d'entrepreneurs qui sont super, qui sont exceptionnelles, on fait ce qu'on aime et on le fait justement en accord avec nos valeurs, en accord avec notre religion et on arrive à avoir des projets vraiment magnifiques dans notre communauté. Je pense qu'il faudrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aux relations humaines.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Rabia.
Alaykoum salam, Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, merci, barakallahu fik.
Rabia, c'est un vrai plaisir de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Alhamdulillah, tu m'étais recommandé par une personne de l'audience et j'ai pu voir ton profil, mashallah, tu fais des choses vraiment intéressantes dont on va discuter aujourd'hui, inshallah. Pour commencer, Rabia, je te propose de nous faire une petite présentation.
Bien sûr, alors en tout cas, merci pour l'invitation, j'en suis complètement ravie. Surtout quand je vois les témoignages, les podcasts que tu as réalisés en amont, on en voit vraiment le travail, l'important travail que tu as réalisé auprès de la communauté. Donc j'en suis vraiment ravie aujourd'hui d'être invitée à ton émission. Alors moi c'est Rabia, je suis consultante en finance et en création d'entreprise. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs mais aussi les particuliers dans la stratégie d'investissement et de business de manière générale. Alors, ça fait 6 ans que je suis à mon compte, bientôt 7 ans maintenant, et je suis issue en fait d'une formation en finance. J'ai été salariée dans un incubateur d'entreprise, et ensuite, naturellement, je me suis lancée à mon compte et j'ai commencé par accompagner principalement des personnes dans le lancement de leur projet. Et maintenant, je suis vraiment plus spécialisée dans l'accompagnement sur la stratégie, le développement business. Donc, c'est vraiment sur la partie financière surtout où j'accompagne les entrepreneurs, mais aussi les particuliers pour les aider à les accompagner à avoir une vraie stratégie d'investissement, une vraie gestion financière qui leur permet en fait d'être serein avec leurs finances.
Ok, machallah, c'est super intéressant. C'est quelque chose d'assez spécialisé. J'imagine que tu ne pensais pas faire ça quand tu étais plus jeune. Ça ne devenait pas en tête naturellement.
Alors pour être honnête, j'ai toujours été très intéressée par l'économie de manière générale. Ouais. Je pense que c'est avec le recul où on voit en fait quand on est... on se dit, ah, c'est vrai que quand j'étais jeune, je lisais ça, ça m'intéressait, etc. Donc, c'est vrai que je pense que dès le départ, on sent quand même qu'on a une envie de faire certaines choses. Il y a des choses qui nous plaisent plus particulièrement. Donc, c'est vrai que dès très jeune, je me souviens, je m'étais abonnée au magazine Challenge. Je ne sais pas s'il existe toujours ce magazine, mais c'était un magazine où souvent, il faisait des portraits de grands chefs d'entreprise, souvent du CAC 40. Je me souviens, c'était même avant le lycée, et donc j'étais toujours intéressée par le business de manière générale. Et c'est vrai que très tôt, j'ai commencé dès que j'ai pu à avoir des petites entreprises, essayer d'accompagner dans mon entourage, etc., monter des petits projets. Donc, je pense qu'on sent quand même qu'on est fait pour ça, ou en tout cas, on est passionné par ça, parce que c'est vrai que quand on se lance à son compte, en général, forcément, on fait quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous intéresse, parce que sinon, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc, oui, effectivement, quand on est dans le système éducatif conventionnel, on ne sait pas vraiment où on va. initialement, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir des petits éléments qui nous disent, ben voilà, c'est la marche à suivre, puis après on verra. Donc, c'est vrai qu'on se spécialise là en finance et là, plus particulièrement en finance islamique, mais parce que justement, on a vu, voilà, c'est les étapes en fait qui nous ont permis de s'orienter vers ça. C'est vrai qu'au départ, quand je conseillais les personnes sur la finance de manière générale et que je voyais que ce n'était pas du tout en accord avec mes principes, ben forcément, on essaye de trouver des solutions alternatives et naturellement, ben, on avance vers ce qui nous intéresse le plus, ce qui correspond le plus à ce qu'on veut véhiculer comme valeur, comme information.
Tu dis que tu étais passionné par tout ce qui était le monde de l'entreprise, l'économie quand tu étais plus jeune. Dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu avais des personnes autour de toi qui étaient aussi travaillant en entreprise ou chef d'entreprise ou je ne sais pas, qui t'inspiraient ou pour comprendre un peu d'où ça t'est venu?
Alors, non, pour être honnête, c'est vrai que j'étais dans un environnement pas du tout d'entrepreneur, puisque mon père était ouvrier dans l'agriculture, donc c'était vraiment la première génération. Donc non, je n'étais pas forcément entourée de personnes qui étaient entrepreneurs et je pense que c'est pour ça que ça a mis du temps aussi à se développer, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, il y a vraiment voilà, il y a des réflexes à avoir quand même et il faut les apprendre. Et c'est vrai que je pense avoir mis un peu plus de temps que quelqu'un qui aurait été dans un environnement plus business, à savoir que c'est vrai que mon activité en tant que salarié m'a permis pendant 6 ans de côtoyer des entrepreneurs et d'accompagner des entrepreneurs. Donc, c'est là où justement ça m'a permis d'en connaître beaucoup plus sur l'entrepreneuriat de manière générale. Mais c'est vrai que l'environnement initial pourrait vraiment accélérer les choses. Ça n'a pas été le cas pour moi, mais ma première expérience professionnelle m'a permis tout de suite de me mettre dans le bain de l'entrepreneuriat.
D'accord. Et tu as fait des études en commerce, en économie?
Alors moi, c'était purement de la finance, puisque j'ai fait effectivement la fac d'économie, mais orientée finance, finance d'entreprise et finance de marché. Donc j'étais vraiment sur le côté finance pure. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ce qui m'intéressait le plus dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit hein, quand on accompagne des projets, il y a une partie quand même qui est importante dans l'entrepreneuriat, qui est quand même l'état d'esprit, le mindset, toutes ces choses-là qu'aujourd'hui on voit beaucoup de personnes s'orienter vers ces formations-là pour pouvoir se développer dans l'entrepreneuriat. Mais moi, j'ai toujours été dans le côté vraiment financier de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment le côté business plan, études de faisabilité, études économiques. Donc, encore aujourd'hui, je suis plutôt sur cette partie-là, levée de fonds. Donc, oui, je suis dans le côté entrepreneur, mais vraiment le côté financier.
Est-ce que ton entourage comprend un peu ce que tu fais?
Non, bah c'est vrai que c'est assez. Enfin, quand on est entrepreneur, c'est assez particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout quand on est une femme aussi, on travaille beaucoup de chez soi. On a vraiment un emploi du temps qui n'est pas forcément régulier. On n'a pas forcément de routine, hein, pour être honnête. C'est vrai que on n'est pas dans des routines classiques. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et surtout qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne différentes entreprises. Donc, les missions sont très différentes. Vraiment l'accompagnement est très différent parce que c'est quelque chose qui est très personnalisé. Aujourd'hui, l'avantage de pouvoir accompagner des entreprises comme celle-ci, c'est justement de leur proposer quelque chose qui soit vraiment très personnalisé. Donc on voit bien qu'il faut être polyvalent quand on est entrepreneur. Ça c'est une chose. Donc c'est vrai que pour l'entourage, c'est très compliqué de savoir réellement ce qu'on fait.
Tu leur expliques comment?
Mais alors, concrètement, on sait que je suis dans le business, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises. Après, ouais. Concrètement, même moi, aujourd'hui, il est très difficile de définir exactement ce que je fais, puisqu'aujourd'hui, en fonction des personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des particuliers, ça peut être très, très différent. Parce que l'objectif, c'est vraiment de proposer quelque chose qui soit un accompagnement qui soit sur la stratégie, qui soit très personnalisé, parce qu'on voit bien qu'au niveau financier, même si on a tous le même objectif, c'est-à-dire d'avoir vraiment une sérénité financière et un développement stratégique serein, la mise en action, le plan d'action est très différent selon le type de structure qu'on accompagne et aussi selon voilà, la personne et ses aspirations.
D'accord. Donc, tu as dit que tu as travaillé dans un incubateur. C'était ta première expérience?
C'est ça, oui. J'ai accompagné donc des porteurs de projets, donc on appelle ça des porteurs de projets avant la création de l'entreprise. Donc justement dans la définition du projet, voir si le projet peut être viable, et surtout on les accompagnait sur le test de l'entreprise, puisque on avait cette possibilité dans cet incubateur de prêter en fait un numéro SIRET, ce qu'on appelle une couveuse d'entreprise. On prêtait le numéro SIRET à l'entrepreneur qui lui permettait de tester l'activité réellement pendant une certaine période. Donc, ça permettait justement de pouvoir tester l'activité face justement au public cible. Et on les accompagnait. Et moi, particulièrement, je faisais les formations, tout ce qui était en gestion financière, voilà, tout ce qui était le business plan.
Et toi, tu voulais travailler dans un incubateur. C'était ton choix, ou tu t'es
Non,
retrouvé
ben je
par
sais,
hasard?
ah, non, je pense que c'est par hasard. Je pense que notre première expérience professionnelle, je pense qu'on l'a tous un peu par défaut des fois. Mais oui, je pense que c'était un peu par défaut, mais j'en étais très, très ravie. C'était une expérience très, très enrichissante, surtout qu'on avait ce côté social aussi dans cette structure, puisqu'on accompagnait principalement des demandeurs d'emploi qui développaient leur projet, parce que souvent, hein, on devient entrepreneur aussi parce qu'on veut se créer son propre emploi. Donc, on avait ce côté un petit peu social qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, puisqu'il faut savoir que quand on est en fac d'économie, c'est vrai que quand on est, voilà, de manière générale, quand on a des études universitaires en économie, finance, on voit énormément le côté pécunier, le côté financier, etc. Mais il y a tout ce côté social, surtout, ben, 10 ans, ça fait 10 ans, hein, que j'ai terminé mon master. On ne voyait pas en fait tout l'impact social, sociétal que pouvait avoir en fait le business. Donc à l'époque, on parlait uniquement de rentabilité dans nos filières, et on voyait très peu l'impact que cela pouvait avoir sur la société, une entreprise, ou même au niveau environnemental. C'était des notions qui n'existaient pas du tout. Donc là, aujourd'hui, on le voit, hein, ça c'est quand même assez. On sensibilise de plus en plus, mais il faut savoir que vraiment 10 ans en arrière, on était sur des choses vraiment, vraiment uniquement rentabilité. Et je me souviens très bien que dans la même université où j'ai passé mon master, il y avait un autre master qui était sur l'économie sociale et solidaire. Et nous, ils nous voyaient vraiment comme des gros business, des étudiants business qui ne pensaient que rentabilité. Et vraiment, à l'époque, j'arrivais pas à comprendre leur vision des choses, vraiment, parce que nous, effectivement, à la fac d'éco, on était vraiment orienté uniquement rentabilité, en fait, hein, quand on faisait des simulations de scénarios d'entreprise, toutes ces choses-là. Mais il n'y avait que le côté financier qui était mis en avant, clairement, hein, et on ne voyait en aucun cas l'impact que cela pouvait avoir au niveau environnemental, social ou vraiment sociétal. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Avec le recul aujourd'hui, on se dit que c'est des choses qui peuvent pas vraiment aujourd'hui être possibles. Mais il faut se dire que voilà, nous, on est un peu, voilà, peut-être la vieille école, mais c'était des choses qu'on n'intégrait pas du tout dans la filière
Dans le
financière
projet.
économique. Ouais, vraiment.
D'accord. Tu as décidé par la suite, ou peut-être que tu as, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu t'es mis à ton compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la transition?
Alors, je pense que naturellement, j'ai accompagné donc pendant 6 ans des personnes qui ont lancé leur projet. Donc, c'est vrai que cette envie de vouloir aussi se mettre à son compte. Après, c'est vrai que c'est aussi une question de vouloir se dire, ben voilà, je veux être autonome, assez indépendant, ne pas dépendre aussi d'un emploi du temps classique d'un salarié, parce qu'avec 2 enfants, c'était à l'époque, ben voilà, il y avait quand même des choses à gérer. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer à son compte, et surtout aussi au niveau même religieux, ça permettait de pouvoir avoir une pratique religieuse un peu plus simple que d'être en entreprise sur des horaires cadrés. Donc, je me suis, ouais, je pense que ça a été quand même un cheminement naturel, même si ça a été effectivement assez assez c'est sortir quand même d'une situation assez voilà assez stable financièrement pour aller vers quand même l'inconnu. Mais je pense que c'était en tout cas le bon moment. Et aujourd'hui, avec le recul, ben je me dis effectivement, hein, je pense qu'il y a chaque chose en son temps. Et je pense que c'est important quand on sent que c'est le moment de se lancer, ben, de tout simplement d'y aller. Hein.
D'accord. Et comment tu t'es organisé pour ça? C'était du jour au lendemain? C'était une transition que tu t'es préparé? Comment c'est passé?
Personnellement, moi, je fonctionne souvent comme ça. C'est que quand je veux faire quelque chose, je le fais tout de suite parce que je sais que ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde aussi. Hein, c'est que c'est sur la motivation du changement qu'on fait les choses. Hein, c'est sur l'instant. Sinon, ben, si on prend trop de temps, en général, ben, la motivation s'essouffle. Donc, en général, quand j'ai décidé de partir, ça s'est fait très, très rapidement. Peu importe, en fait, j'avais négocié à l'époque une rupture conventionnelle, ça se faisait encore, on va dire. C'était plutôt confortable, on va dire, puisque j'avais les indemnités chômage à l'époque. Donc, c'était quand même une situation qui restait quand même assez cadrée. Donc, oui, il n'y avait pas trop de risques dans la situation. Et c'est vrai que, bah, étant donné que j'avais accompagné des entrepreneurs, c'était quand même le boulot que je faisais, j'ai suivi les conseils que je donnais tout simplement pour me lancer.
D'accord. Mais je veux dire, en termes de plan, tu savais que tu voulais te mettre à ton compte. Est-ce que tu avais déjà des clients potentiels ou est-ce que tu t'es dit, voilà, je me laisse un certain temps pour essayer de lancer le projet?
Alors, moi, c'est vrai, comme je te disais, j'ai toujours eu beaucoup de petites entreprises, c'est-à-dire, j'ai toujours eu quelques petits business en cours. Chaque fois, j'avais toujours j'accompagnais des porteurs de projets dans ma famille, etc., des amis dans des projets. Donc, j'ai continué, en fait, naturellement à développer ça. C'est-à-dire d'aider les personnes autour de moi. Et au fur et à mesure, effectivement, je faisais partie de ces entreprises-là, soit vraiment en prenant des actions dans ces entreprises-là, soit en ayant justement un poste de responsabilité à l'intérieur de l'entreprise. Donc concrètement, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Après, c'est plutôt le côté financier où on se dit, ben voilà, est-ce que ça me permet de générer des revenus qui me permettent de continuer à vivre correctement. C'était surtout ça. C'est surtout en fait là la question, puisque je pense que quand on aime ce qu'on fait, on le fait sans compter en termes de temps, en termes de disponibilité. Et ensuite, c'est de mettre en face les chiffres financiers, de se dire est-ce que ça permet de dégager assez de revenus. Et à cette époque, quand j'ai arrêté mon emploi salarié, on avait investi avec mon mari dans l'immobilier. On avait acheté un appartement à Tanger parce que c'était une ville qu'on aimait beaucoup et qu'on avait comme projet de s'y installer à l'époque. Donc, on avait acheté un appartement et au final, bon, on ne s'est pas installé là-bas, mais on l'a mis en location et ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis d'avoir des revenus qui ont pallié aux revenus que j'avais plus en tant que salarié. Et donc, ça m'a permis en tout cas de développer mes business tranquillement en parallèle sans cette pression financière. Donc, je pense qu'il y a eu aussi ça la pression financière qui fait ou pas qu'on peut continuer à développer des projets qui nous intéressent, qui nous aspirent sans penser au côté financier.
D'accord.
Donc, moi, j'ai toujours eu un peu, on va dire, des revenus qui m'ont permis de continuer à travailler en faisant uniquement ce que j'aime, en choisissant les projets que je voulais faire et tout en ayant des revenus à côté qui me permettent de continuer, globalement, un peu à faire ce que j'aime.
D'accord. Tu parlais au début, je me souviens plus exactement ce que tu disais, mais tu parlais d'adapter un peu ce que tu fais aux valeurs, à tes valeurs musulmanes, etc. Tu parlais de quoi exactement à ce moment-là?
Alors, concrètement, en fait, c'est que quand j'ai commencé à accompagner des porteurs de projets, quand j'étais salariée, c'était tout type de personnes. Et on sait très bien qu'en entreprise, il y a le côté qui est important, qui est le financement. Et le financement, souvent, on fait appel au crédit avec intérêt. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont accès à ce crédit pour pouvoir développer leur activité. Et nous, en tant que musulmans, ce crédit et le crédit avec intérêt donc, est illicite. Et donc, ça, en tout cas, certains entrepreneurs, en tout cas, certains porteurs de projets, voient en cette interdiction un gros frein pour développer leur projet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était effectivement juste une barrière un peu plutôt psychologique et qu'il y avait d'autres alternatives qui permettaient en tout cas de lancer des projets. Et c'est là où justement j'ai dû me former en finance islamique parce que je me suis dit, il était important de pouvoir conseiller au mieux les entrepreneurs. Il y a un obstacle effectivement, mais il y a peut-être des alternatives, des solutions. Et c'est là où j'ai commencé un grand processus d'apprentissage, encore aujourd'hui, puisque la finance, c'est quelque chose c'est une science qui n'est pas figée, qui se développe énormément, puisqu'aujourd'hui, les outils informatiques, les outils technologiques nous permettent justement de pouvoir améliorer au mieux les outils liés à la finance et au financement de manière générale. Et donc, c'est quelque chose qui évolue énormément et donc, on se forme tout le temps pour pouvoir pour toujours proposer, en tout cas, des solutions, des outils aux entrepreneurs et aux particuliers qui correspondent à leurs valeurs.
D'accord. Donc, tu aides principalement, j'imagine, du coup, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise musulmans. C'est assez le principal.
Alors oui, aujourd'hui, c'est ma cible principale puisque on aspire aux mêmes valeurs et concrètement, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il faut effectivement avoir un minimum d'éthique et de valeurs pour pouvoir aussi exceller sur le long terme. Mais il y a aussi, j'accompagne des personnes qui ne sont pas musulmanes mais qui aspirent aux mêmes valeurs que prône l'islam puisque ce sont des valeurs universelles et qu'ils ont vraiment cette envie de pouvoir aller vers un monde un peu plus juste, avec des finances beaucoup plus saines, et qu'on retrouve effectivement dans les valeurs de l'islam.
Tu te rappelles quand ça t'est venu un peu cette idée de vouloir intégrer ces valeurs musulmanes ? Est-ce que ça a toujours été là ou bien il y a une prise de conscience, tu as découvert ça ? C'est passé
non,
comment ?
Je pense que c'était vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire qu'au-delà du fait, on se rend compte que quand on développe des projets, on est face à un mur et qu'il faut trouver des solutions. Et c'est là où on se dit, mais forcément, il y a des solutions. Dieu nous a toujours mis des solutions quand il y avait une difficulté ou autre. Donc, vraiment, c'était surtout de se dire, s'il y a un problème, on peut le résoudre. Et c'était surtout ça. Et c'était vraiment au fil de mes accompagnements où les mêmes problématiques, on retrouve les mêmes problématiques chez tout le monde. Et on se dit, on va trouver des solutions. Et c'est vraiment là que la prise de conscience, on s'est dit, là, la communauté, elle a vraiment besoin de solutions concrètes. Et de recherche. Après, c'est quelque chose qui, je pense, on est au début d'un long cheminement sur la finance islamique de manière générale et sur les pratiques business qui sont en relation avec nos valeurs, parce que je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très nouveau pour la communauté musulmane, puisque je pense que jusqu'à présent, on n'était pas énormément sur la scène de l'entrepreneuriat. Donc, on n'avait pas à se poser ces questions-là. Je pense que ces questions, elles sont récentes justement parce qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de musulmans dans l'entrepreneuriat, dans le business, qui montent des structures et qui, justement, se voient confrontés à ces questions-là. Donc, je pense que c'est un cheminement, je pense, pour la communauté française, en tout cas la musulmane, qui arrive étape par étape. Je pense que c'est chaque chose en son temps.
Tu disais plutôt que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise voyaient le fait de ne pas pouvoir passer par la banque et faire des emprunts comme un frein dans leur projet. Et tu as aussi cité qu'il y avait des alternatives pour ça. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce que tu voulais dire par là ?
Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on a ce besoin de fonds dès le démarrage de l'activité en fonction, bien évidemment, du secteur. on a besoin de fonds. Et c'est vrai que passer par une banque conventionnelle, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il y a d'autres alternatives qui s'ouvrent aux entrepreneurs, notamment l'ouverture du capital, je pense qu'il est la plus représentative, et surtout dans notre communauté, que c'est quelque chose qui est énormément... qui est vraiment favorisé, qui est mis en avant dans notre religion, c'est d'aider donc son prochain, d'aider les entrepreneurs à lever des fonds. Donc ça, c'est quand même un moyen qu'on a peut-être tendance à négliger, mais qui est une réelle solution pour lever des fonds pour un démarrage de projet. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les contrats en finance islamique, la moucharaka, mais c'est vraiment de pouvoir participer au capital de l'entreprise dès le démarrage et lever des fonds de cette manière-là. Donc, ça, c'est vraiment une solution pour des projets qui demandent des fonds initiaux.
Donc, l'idée, c'est de vendre une partie de son entreprise, par exemple, disons 10%, contre un certain montant. Et l'idée, en fait, c'est que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, fait une projection sur la croissance de son entreprise pour proposer à l'investisseur de racheter ses parts plus tard à une valuation plus élevée.
Éventuellement, mais c'est aussi la possibilité de rester aussi dans le capital de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, je suis dans le capital de plusieurs entreprises en tant que actionnaire, hein, tout simplement. Et en fait, on reçoit des dividendes liés aux bénéfices de l'entreprise. Donc, soit effectivement, on a la possibilité après, éventuellement, de revendre ses parts au chef d'entreprise puisqu'il veut avoir, enfin, il veut garder le contrôle total sur l'entreprise, donc garder 100% des parts. Mais souvent, l'entrepreneur a vraiment cette aspiration et veut avoir des personnes dans son entreprise puisque ça permet d'avoir un regard aussi extérieur, d'avoir du recul sur l'évolution de l'entreprise. Et ça, c'est très, très intéressant puisque ça nous permet justement tous ensemble de prendre des décisions pour l'entreprise selon justement toutes les compétences de chacun. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un modèle qu'il faut perpétuer parce que ça permet justement d'avoir des personnes qui se sentent investies dans l'entreprise et surtout, si l'entreprise prospère, tout le monde gagne. Et si l'entreprise a des difficultés, tout le monde perd de la même façon. Donc, ça encourage en tout cas à avoir une gestion financière intéressante et une gestion de l'entreprise avec de vrais objectifs. Donc, non, je pense que c'est un modèle qu'il faut en tout cas développer dans notre communauté pour les personnes qui cherchent des fonds.
Quand on regarde chez les consultants, en général, ils ne prennent pas spécialement de part dans l'accompagnement des entreprises. Ils le font en échange de tarifs, d'honoraires. Et dans ton cas, tu dis que tu as investi ou peut-être tu as reçu sous forme de part des paiements ou je ne sais pas comment c'est passé. C'est un choix personnel ou c'est pour peut-être aider des entreprises qui n'avaient pas forcément les moyens ou pourquoi est-ce que tu as autant de parts dans l'entreprise que tu aides?
Alors aujourd'hui, j'accompagne sur, je suis dans 5 entreprises actionnaires, mais c'est vraiment indépendant des honoraires liés aux consultants, au travail que je fais en parallèle. C'est vraiment des choses qui sont totalement différentes. Mais je prenais ça comme exemple pour vraiment encourager les personnes autour de nous, quand on a des personnes qui lancent des projets d'entreprise, de les accompagner en mettant de l'argent dans l'entreprise et ça permet justement de pouvoir les aider sur le lancement en général, hein, mais aussi après, des fois, sur le développement.
Le type d'entreprise que tu accompagnes, c'est quel type d'entreprise? Des startups qui débutent, des entreprises de taille moyenne, des PME, c'est quel type d'entreprise que tu accompagnes?
Non, aujourd'hui, vraiment, on est sur des PME, mais la plus grosse entreprise que j'accompagne, on est sur 50 salariés.
D'accord. OK. Quand tu as commencé à développer ton activité, comment est-ce que tu as fait pour, quand tu as trouvé tes clients, pour leur prouver que tu avais la légitimité, oui, pour les aider à développer leur projet? Est-ce qu'ils te connaissent? Tu avais déjà une belle image qu'ils connaissaient ou tu as dû te vendre? C'était quoi la difficulté derrière pour toi?
Sincèrement, quand j'ai commencé, ça a été vraiment le bouche à oreille. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu cette problématique-là. J'allais pas taper aux portes. Enfin, c'était pas, voilà, on n'était pas dans le dur. C'était vraiment le bouche à oreille. Et c'est vrai que sur mon activité, on n'a pas besoin de beaucoup de clients pour pouvoir, voilà, pour financièrement tenir, puisque globalement, voilà, on a un qui, enfin, je pense, sur l'année. Quand j'ai commencé, en tout cas, il suffisait d'avoir à peu près moins de 8 clients, je pense, pour pouvoir avoir un revenu qui était l'équivalent de mon emploi salarié. Donc, quand j'ai commencé, c'était plutôt, voilà, un seuil de rentabilité qui était assez correct, puisque les prestations de conseil sont quand même facturées en fonction donc du temps estimé. Donc ouais, on était sur, donc c'est vrai que ça peut aller très très vite en fait, puisque voilà, le bouche à oreille fait que voilà, quelqu'un qui veut lancer son activité, ben voilà, on contactait et puis on travaillait sur ça. Après, c'est vrai qu'au début, au lancement, on compte vraiment pas à nos heures, donc ramener ça aux heures de travail, ce serait pas du tout c'est pas du tout rentable, hein, concrètement, hein. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est vrai qu'on compte pas nos heures. Moi, sincèrement, je pense que quand j'ai commencé, on n'était vraiment pas du tout sur de la rentabilité, mais en tout cas, j'arrivais à générer des revenus qui me permettaient, voilà, de en tout cas d'avoir au moins ce que je gagnais en tant que salarié.
D'accord, très bien. On en discutait au téléphone la dernière fois. Une des entreprises que tu accompagnes travaille dans l'investissement dans l'or.
Oui.
Et donc, c'est l'investissement qui est orienté du coup pour tout le monde ou principalement chez les musulmans?
Alors, aujourd'hui, Inaya Finance, donc c'est une société allemande, donc qui propose des produits d'investissement pour les particuliers et pour les entrepreneurs, dont leur produit phare est donc le produit Gold Dinar, donc qui est un produit d'investissement dans de l'or physique. Et il permet donc aux musulmans, puisqu'il répond à certains critères qui sont liés à l'éthique musulmane et qui sont très restrictifs. Donc, effectivement, ce produit est à destination principalement des musulmans, mais aussi des personnes, comme je le disais tout à l'heure, hein, des personnes qui font attention à leur façon de consommer, même au niveau financier, et qui veulent justement pouvoir épargner de manière la plus éthique possible, puisque voilà, la religion musulmane nous impose une rigueur justement par rapport à l'éthique, à l'impact justement environnemental aussi. Et le produit Gold Dinar répond à toutes ces restrictions-là qui nous permettent justement de répondre à une éthique et une morale qui est universelle.
Nous citer les grandes restrictions dans l'investissement en or, parce que ça paraît, on pourrait se dire que l'investissement en or, c'est assez simple, on achète de l'or et puis c'est tout. C'est
alors,
quoi les restrictions?
Principalement, il faut se dire que dans la finance islamique, de manière générale, c'est une finance de contrat. C'est-à-dire que le contrat doit être licite entre la société donc, qui propose le produit et le client. Donc, il y a cette restriction qui est assez importante aujourd'hui et qui doit être justement mise en conformité pour proposer le produit. Donc là, le Gold Dinar permet justement, répond à ces demandes, à ces contraintes-là, notamment sur l'achat de l'or. Puisqu'aujourd'hui, l'achat d'or doit se faire de manière spot, c'est-à-dire que la société n'achète pas en amont l'or, elle achète l'or uniquement quand elle a les fonds des clients. Donc ça, c'est quand même une des principales restrictions qu'on ne voit pas que dans le monde, dans des produits qui ne sont pas charia compliant. Et donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui est important à respecter sur l'achat en lui-même de l'or.
D'accord, c'est un peu du dropshipping d'or, quoi.
C'est ça, souvent, ben voilà, les grossistes vont acheter de l'or à un certain prix, puis le revendront au moment où l'or est plus cher, par exemple. Donc, ces choses-là sont interdites en finance islamique.
D'accord, je vois. Ok, ben, actuellement, je pense que j'imagine que vous avez beaucoup de travail. Je ne sais pas, en fait, d'ailleurs, si vous avez beaucoup de travail avec la crise,
oui,
l'inflation, tout ça. Comment ça se passe?
Exactement, c'est vrai que naturellement, l'inflation, les crises, les instabilités économiques, politiques font que naturellement, ben, les personnes se ruent vers l'or, dans le vrai sens du terme, puisque on sait que l'or reste quand même une valeur sûre, une valeur refuge, qui permet justement de protéger un maximum contre l'inflation et contre, bien évidemment, les risques systémiques liés aux banques.
Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent les personnes, dès qu'il y a une instabilité, qu'elle soit politique, économique ou sanitaire, les personnes se ruent vers l'or parce qu'elles savent que derrière l'or, ben, forcément, on a une stabilité qui permet de répondre en tout cas à ces inquiétudes, puisqu'il faut se dire que des crises, on en a souvent. La dernière, effectivement, sur la crise sanitaire lors du premier confinement a montré effectivement les mêmes réflexes sur les achats d'or, où les personnes ont voulu absolument protéger leurs économies en achetant de l'or. Et je pense qu'effectivement, les personnes qui l'ont fait pendant le confinement en sont ravies aujourd'hui, et les personnes qui le font aujourd'hui face à cette crise politique le seront aussi dans quelques temps. Et c'est vrai que l'or reste quand même une manière de protéger contre l'inflation qui aujourd'hui est très visible.
D'accord. Et quand on achète de l'or, on le reçoit en physique, ou est-ce que vous gardez l'or ? Dans des coffres.
Alors, il y a la possibilité de le recevoir, mais le service comprend le stockage. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos habitudes de fonctionnement, hein, globalement, privilégient quand même le fait de garder l'or stocké dans des coffres forts. Les personnes, en général, le laissent stocker plutôt que chez soi. Donc, les personnes décident donc d'investir dans de l'or physique un montant et le laisse stocker par le biais d'INAIA.
D'accord, ok. Par rapport aux autres entreprises, ceux qui vendent de l'or, vous vous situez comment en termes de… Enfin, je ne connais pas les frais, hein, tout ça, mais est-ce que vous êtes compétitif, vous avez plus ou moins les mêmes tarifs, ou c'est un peu plus cher parce qu'il y a plus de travail peut-être pour
Alors,
faire de ça?
L'avantage… L'avantage d'investir dans de l'or chez INAIA, principalement, c'est la possibilité de pouvoir investir à partir de 50 euros par mois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le gros avantage. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec un petit montant, vous pouvez commencer à investir dans de l'or physique. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout type de personnes qui souhaitent commencer à investir dans l'or. Ce serait compliqué pour quelqu'un d'aller investir voilà, pour 50 euros d'or dans d'autres structures qui factureront justement le fait de prendre des petites quantités. Alors que là, avec INAIA, on propose un produit avec des frais qui sont les mêmes pour tous. Il y a aussi cette équité hein, justement entre tous les clients. Donc, quelqu'un qui investit 50 euros, quelqu'un qui investit 1 000 euros aura les mêmes frais liés à ses achats. Donc, c'est quand même le gros avantage aujourd'hui de pouvoir commencer à acheter de l'or avec INAIA Finance.
Ok. Et quand on achète, par exemple, quelqu'un qui souhaite acheter 50 euros d'or par mois mensuellement, par exemple, il va posséder un petit bout de lingot.
C'est ça, c'est que…
C'est partagé entre plusieurs personnes ou c'est quoi ?
Non, globalement, en fait, il y a l'accès à un compte en ligne où on voit s'accumuler dans son coffre-fort virtuel les grammes d'or. Donc, l'avantage, c'est justement de voir, justement, petit à petit, son premier lingot se construire. Donc, en général, avant 20 grammes d'or, il y a même 10 grammes, hein, c'est possible d'avoir des petits lingots de 10 grammes, mais globalement, il n'y a aucun intérêt de posséder des lingots trop petits. Mais à partir de 10-20 grammes, on a un vrai lingot qui est stocké au nom du client. Donc, avant ça, on a la possibilité de revendre cet or-là et de pouvoir se faire un virement sur son compte. Donc, après, ça dépend vraiment les clients et ce qu'ils veulent réellement faire de leur investissement, de leur achat d'or. Mm-hmm. Mais oui, tout est possible.
D'accord. Et quand on revend, quand on achète, ça se fait en temps réel ?
C'est ça, exactement. Dès que, en fait, toutes les transactions doivent se faire spot, c'est-à-dire que lorsqu'INAIA achète pour le client, ben, c'est dès la réception du montant. Et lorsqu'on revend, c'est dès la transaction, la réception de la transaction. Donc, la vente se fait au cours du jour.
OK. Et vous vous revendez du coup à qui ? Je suis par curiosité. Comment vous faites ?
C'est sur les marchés. Donc, soit il y a la possibilité en fait où on revend directement, puisque l'or, l'avantage de l'or, c'est que c'est très liquide. On dit que l'or, c'est pour ça qu'on paye la zakat sur l'or, parce que c'est quelque chose qui est très liquide, qui est facilement revendable. On n'est pas sûr de l'investissement comme de l'immobilier ou autre produit financier. On est sur quelque chose qui est revendable immédiatement sur les marchés, puisque l'or, il y a toujours une demande en face de l'offre.
Et du coup, chez le marché principalement du coup, européen ou français, vous voyez une tendance d'achat d'or chez les musulmans qui croient ou qui changent ?
Alors, je pense que c'est vraiment dans notre culture. Hein, l'or, ça a toujours été dans notre culture, dans notre tradition, enfin, dans notre religion de manière générale. L'or a toujours été mis en avant dans le Coran. Donc, les musulmans sont habitués quand même à acheter de l'or. Je pense que c'est juste la manière dont on le faisait avant qui est différente par rapport à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'Inaya a développé et développe ce produit aujourd'hui en Europe, puisque justement notre façon de consommer est différente. Et là, elle permet justement à la communauté musulmane d'acheter de l'or sans toutes les restrictions qu'on peut avoir quand on achète de l'or, puisqu'avant, par exemple, nos mères achetaient de l'or en bijoux, par exemple, pour pouvoir, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins, puisque ben, les femmes portent beaucoup moins de bijoux en or aussi, et le stockage est compliqué. Donc là, en achetant de l'or lingot 24 carats, ben, ça permet aux personnes d'investir toujours de la même façon, toujours comme ça a toujours été fait, mais de manière un peu plus moderne, tout simplement.
Fiscalement, ça a des implications d'investir dans l'or ?
Alors aujourd'hui, l'or, on a encore cet avantage, en tout cas en France, qui est considéré encore comme une marchandise, hein, c'est-à-dire vraiment c'est de l'achat d'or physique. En tout cas, quand on parle d'or physique, hein, c'est encore considéré comme une marchandise. Donc la détention de l'or n'est pas soumise à taxation. C'est uniquement lors de la revente où l'administration fiscale demande une déclaration de la plus-value. Mais détenir de l'or n'est pas imposable.
Tant qu'on ne revend pas, on n'a pas de transaction. Donc,
exactement. C'est encore un avantage. C'est ça. C'est un avantage quand même qui n'est pas négligeable aujourd'hui lorsqu'on veut protéger son épargne. Ça permet justement de le mettre dans de l'or en profitant en tout cas de l'effet qu'absorbe l'or au niveau de l'inflation. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant en fonction, bien évidemment, des projets de chacun. Puisque l'objectif, hein, ce n'est pas justement d'investir dans l'or pour investir dans l'or, hein, mais avant tout de rapporter ça à un projet, puisque nous, dans notre communauté musulmane, on sait très bien que le plus important, c'est de faire tourner notre économie, d'investir dans des projets. Et c'est pour ça que le côté, justement, investir dans les entreprises est important. Et donc c'est pour ça qu'il faut donner toujours du sens à notre épargne de manière générale, que ce soit dans l'or ou tout simplement en banque.
Du coup, tu disais que si on revend notre or, l'État taxe sur la plus-value, peut-être 20% ou je ne sais pas combien ils prennent en France de la plus-value.
C'est ça. En fait, il y a deux régimes d'imposition qui sont différents. Donc, en fonction justement du nombre d'années de détention, c'est dégressif en fonction de la plus-value et du foyer fiscal. Il faudra choisir le meilleur, le plus avantageux du système de taxation, tout simplement.
OK. Bon, c'est super. Et au niveau de l'héritage aussi, comment ça se passe, tu sais ? Peut-être un peu complexe, mais…
Alors, au niveau de l'héritage, ça va rentrer justement, quand on a de l'or, ça va rentrer justement dans la succession de manière assez similaire à n'importe quel autre actif qu'on aurait dans la succession. Donc, le compte Goldinar, ben voilà, hein, si la personne elle a pour 100 000 euros d'or, rentrera dans dans sa succession en fonction de si elle a fait un testament ou selon les règles du pays où elle est.
Et si les héritiers gardent l'or en physique, ils ne sont pas aussi taxés sur ça ? Ou sont-ils taxés sur…
Alors, ensuite, ça dépend de la traçabilité de l'or. C'est vrai que c'est de l'or physique, donc c'est compliqué des fois de pouvoir tracer justement les différentes étapes de détention. Mais ensuite, c'est à chacun de faire justement de manière individuelle sa déclaration.
Non, je veux dire, si par exemple, je sais pas, un parent détient 5 000 euros d'or, il a deux enfants, enfin deux héritiers par exemple, qui récupèrent du coup 50 000 euros, mais qui le gardent en physique, est-ce que ils sont taxés parce que c'est de l'héritage, ou est-ce que s'ils gardent l'héritage sous forme physique, ils seront eux taxés sur la revente aussi?
Alors, c'est deux choses différentes, puisque effectivement, s'ils l'ont pas revendu, ils ne seront pas taxés sur la plus-value, puisqu'il n'y aura pas de plus-value. Par contre, au niveau de l'héritage, oui, il y a une taxation sur le montant lié à la succession. Mais c'est vraiment deux choses différentes.
D'accord, donc il y a double taxation. En France, ils sont durs.
Ah oui, ouais, il faut vraiment vouloir y rester. N'est-ce pas, Abdelrahman?
Ouais. Ouais, Singapour, on est bien traité, alhamdoulilah. Ok, d'accord. Je voulais terminer sur un sujet, donc sur ta gestion de vie pro, vie de famille. Comment est-ce que tu gères un peu tout ça? Vu que tu es machallah, une mère très active, tu es mariée, tu as, je sais plus combien d'enfants tu as.
Trois garçons.
Trois garçons, machallah, la ibalek. Que Dieu les préserve. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Tu disais que ton travail, ça prend vraiment pas mal de temps. Il y a la vie de famille. Ça demande une organisation derrière, une grosse organisation. Tu gères bien?
Alors, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir une bonne organisation. Je pense comme tout le monde, hein, quand on est entrepreneur, il y a justement le fait que la vie professionnelle et vie perso se lient énormément. Donc, c'est là le plus gros challenge, j'ai envie de dire, c'est de garder quand même... d'essayer en tout cas de garder, mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on aime ce qu'on fait, c'est très très compliqué de mettre une barrière entre tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les femmes en tout cas, c'est un vrai challenge de pouvoir concilier ces deux côtés-là. Après, j'ai un mari qui est très aidant, qui me soutient énormément dans toutes les démarches, enfin dans tous mes projets, hein, même les plus farfelus. Donc, ça aide énormément. Je pense que voilà, hein, on est très très complémentaires. Donc, je pense que comme chaque couple, c'est très très important d'être complémentaire sur beaucoup de choses pour pouvoir avancer dans la même direction. Donc, alhamdoulilah, je pense que c'est quand même la base du foyer. Après, c'est vrai que les enfants, ça reste une réelle, enfin, c'est une vraie MNA en tout cas pour nous en tant que musulmans. Et notre responsabilité est tellement importante que j'ai envie de dire que pour moi, c'est vraiment le plus gros challenge. C'est vraiment mes enfants. Pour moi, le travail aujourd'hui, en tout cas l'activité professionnelle que j'ai aujourd'hui, reste pour moi un grand grand loisir. Et c'est vraiment ça qui me permet justement de pouvoir avoir du temps pour moi, j'ai envie de dire, puisque la vie de famille, je pense que c'est quand même et les enfants restent notre grand challenge pour tous. En tout cas, en tant que mère, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué, en même temps le plus beau, mais le plus difficile à gérer. Et parce qu'il n'y a pas de règles, les enfants sont tous différents, leurs besoins sont très variables, et je pense que voilà, on a tous envie de leur donner le meilleur. Et pour moi, ça reste le plus challengeant, ça reste vraiment l'éducation de mes enfants.
D'accord. Je ne sais pas si tu veux en parler. On parlait au téléphone, tu me disais que tu avais un garçon malvoyant et que ça demandait quand même un certain travail.
Oui, je pense que donc, mon fils, donc l'aîné, donc il est né donc avec une voilà, il est né, il était malvoyant, en tout cas avec une maladie chronique importante. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée aujourd'hui aussi à faire et en tout cas à avoir la force de pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est parce qu'on voit les épreuves qu'on peut avoir quand on a des enfants comme ça en difficulté, et je rencontre aussi beaucoup de parents, hein, dans la même situation où en fait c'est ces enfants là différents, extraordinaires, qui nous donnent cette force en tout cas d'avancer et de vouloir donner en tout cas le meilleur de soi. Après, c'est vrai que c'est difficile, surtout dans notre communauté. Je l'ai vu aussi dans les différents podcasts que tu as pu enregistrer avec des personnalités exceptionnelles qui parlent de leur travail avec passion.
Et on voit que c'est une réelle problématique aujourd'hui dans notre communauté musulmane d'avoir des enfants, ben voilà, qu'ils ont un handicap, hein, qu'ils sont concrètement, voilà, qu'ils ont un réel handicap. Et je pense que c'est, voilà, c'est quand même le plus difficile aujourd'hui à gérer, puisque c'est quelque chose que souvent les personnes nous voient comme des essaient en tout cas de nous aider. Enfin, on a toujours ce profil un peu de voilà. C'est difficile, la vie est difficile, alors qu'au final, quand même, ces enfants-là, c'est ceux qui nous donnent le plus de force. Et je pense qu'il y a vraiment... moi, je parle souvent de pédagogie dans la finance islamique. On a besoin d'aujourd'hui d'accompagner les personnes pour s'intéresser justement à la finance islamique, à la finance de manière générale. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Mais je pense que le gros challenge dans notre communauté, c'est vraiment par rapport aux relations humaines, aux relations avec les enfants aussi avec des handicaps, tout type d'handicap de manière générale. Et je pense que c'est la base. Et vraiment, si au final, s'il y a vraiment un message que j'aimerais faire passer à travers ton podcast, Abdelrahman, c'est vraiment ça. Ouais. C'est de se dire que au-delà de toutes nos activités d'entrepreneurs qui sont super, qui sont exceptionnelles, on fait ce qu'on aime et on le fait justement en accord avec nos valeurs, en accord avec notre religion, et on arrive à avoir des projets vraiment magnifiques dans notre communauté. Je pense qu'il faudrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aux relations humaines. Et les enfants sont ceux qui sont le reflet, en tout cas, de ce que nous sommes. Hein. Concrètement, nos enfants le sont. Et je pense que le sujet, en tout cas, de l'handicap, de manière générale, de notre communauté, reflète aussi cette difficulté qu'on a d'appréhender les relations humaines et l'entraide entre chacun d'entre nous. Et je pense que, avec mon fils, dès le début, j'ai bien vu qu'on avait cette problématique-là dans notre communauté d'entraide, où c'est très compliqué d'avoir du soutien, d'avoir en tout cas les attentes, parce qu'effectivement, on a les moyens, on va dire même financiers, les moyens au niveau des structures en France, en tout cas, de pouvoir trouver les bons accompagnements pour nos enfants, de manière générale pour toutes les personnes en situation de handicap. Mais il y a ce soutien peut-être familial, humain, qu'on a vraiment du mal à retrouver dans la communauté musulmane et qu'on retrouve énormément dans les autres communautés. Mais je pense que c'est vraiment par rapport à un problème de sensibilisation, de manière générale, à ces questions-là. Pour être honnête, je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on aborde très peu. Comme pour les personnes vieillissantes, hein, aujourd'hui, notre communauté, nos parents qui commencent à être des personnes âgées, qui ont besoin de soutien moral, humain. Et c'est toutes ces questions-là où on voit quand même qu'ils commencent à avoir des sensibilisations à ce niveau-là, mais très peu. Et je pense qu'au-delà de vouloir voir fleurir des business très captivants, très intéressants, des business à succès dans notre communauté, je pense que si on peut revenir à la base de l'humanité et des relations humaines, je pense que ce serait le meilleur, en tout cas la meilleure stratégie pour fonder en tout cas une communauté solide.
D'accord. Ok. Mais c'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis. On pourrait se dire que chez les musulmans, on est très dans le social, on s'entraide beaucoup dans certaines choses. Mais comme tu dis, il y a d'autres domaines sur lesquels on, je sais pas, peut-être il y a des traumas, ou peut-être on sait pas faire, ou je sais pas comment.
Oui, je pense que la communication, on est beaucoup dans l'émotion dans notre communauté, parce que surtout, enfin, dans les musulmans de France, où on est quand même, c'est l'Afrique du Nord, souvent, beaucoup. Donc, c'est les personnes du Sud, Afrique, etc. Donc, on est beaucoup dans l'émotion, mais très peu dans l'action, quand même, sur ces questions-là. Mais je pense, voilà, je pense que c'est comme tout. On a besoin de personnes qui sensibilisent sur ces questions-là, de manière générale, et qui en font une force, et pas seulement voilà, des freins à notre communauté. Donc, je pense que, voilà, en tout cas, moi, dans ma démarche, c'est vrai que je parle beaucoup business, beaucoup finance, beaucoup toutes ces choses-là, beaucoup argent. J'essaye de sensibiliser au maximum pour que ce soit en accord avec notre communauté, mais on a besoin de personnes qui puissent parler des relations humaines de manière un peu plus profonde.
Comment est-ce que toi, ça t'a affecté du coup de devoir, enfin, c'est quoi qui t'a affecté en fait avec ton enfant? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a affecté spécialement?
Enfin, sincèrement, moi, je pense que c'est vraiment il y a vraiment un manque important, en tout cas, de la communauté musulmane dans ces secteurs-là, globalement. C'est-à-dire aujourd'hui dans la santé. C'est-à-dire que on retrouve très peu de soutien et de personnes investies dans ces domaines-là, de manière générale, dans notre communauté. Et je pense que c'est justement parce que c'est des milieux, voilà, où l'humain prend une place importante, où il y a le côté, ben, il y a pas de côté financier dans ces choses-là, hein. Il y a pas de gain proprement dit financier. Le gain, il est beaucoup plus profond. Et malheureusement, je vois très peu de personnes s'orienter vers ces domaines-là. De la santé, voilà, du médico-social. Et on parle beaucoup, voilà, de business lucratif et très peu de santé où l'humain est vraiment au centre de la question. Et je pense que vraiment, moi, ce que j'ai envie vraiment de faire passer, c'est que aujourd'hui, oui, la communauté musulmane, elle a besoin de ça, puisque moi, j'ai été vraiment confrontée à un vide total de la communauté musulmane sur ces questions-là.
C'est-à-dire, il n'y avait pas d'aide, pas de soutien, pas de conseil ou quoi que ce soit pour
Exactement. On ne trouve pas aujourd'hui cette vision-là partagée par les musulmans. On le trouve énormément dans d'autres communautés, mais vraiment pas dans la communauté musulmane.
Ok, d'accord. Bon, c'est un appel, hein. C'est un appel ouvert. Les personnes qui sont intéressées à travailler dans le social, pour qui c'est une passion, pour qui c'est quelque chose qu'ils voudraient faire, sachez quoi, là, il y a une grosse demande, il y a un gros besoin dans la communauté musulmane.
Ouais, je pense vraiment en tout cas, ça a le mérite de pouvoir être creusé, parce que c'est vrai que on a une tendance à orienter les personnes uniquement vers des secteurs d'activité qui sont lucratifs proprement dit, mais celui-ci peut l'être également, mais d'une autre manière.
Très bien. D'accord. Bah écoute, Rabia, je pense qu'on a traité tous les sujets, les grands sujets que je voulais traiter. Je vais essayer de terminer par des petites questions que je pose habituellement. Est-ce que tu as des routines que tu suis quotidiennement ou tous les mois ou régulièrement qui t'aident à progresser?
Alors, pour être honnête, pas vraiment quelque chose de particulier à partager, si ce n'est que je me forme tout le temps. C'est-à-dire que je fais toujours des formations. J'ai toujours une formation en cours. Je suis toujours inscrite soit à une formation online, soit en présentiel. Mais depuis 6 ans que je suis entrepreneur, j'étais toujours en formation. Voilà, peu importe la durée que la formation me prend en termes de timing sur mon emploi du temps, j'essaie toujours d'avoir une formation en cours.
D'accord. Tu apprends quoi actuellement? Tu te formes sur quoi?
Alors là, je suis encore en formation sur la finance islamique. Ben justement, là, je me suis inscrite au MBA de finance islamique avec l'Institut El Razali. Donc là, j'ai cette
Parce
formation-là.
qu'à Paris, c'est ça.
C'est ça, oui. Voilà.
Ok. Et pourquoi est-ce que tu fais toujours des formations? C'est quelque chose de une habitude? C'est quelque chose que tu trouves indispensable pour progresser ou...
Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va beaucoup trop vite. Et si on veut être en tout cas à jour, et aussi parce que c'est quelque chose, enfin, en général, c'est des choses qui nous passionnent, il est essentiel de se former constamment. On n'est plus du tout dans le modèle ben voilà, ancien, hein. C'est-à-dire que bon, les personnes se formaient à un métier, puis exerçaient ce métier pendant des années et faisaient des mises à jour, on va dire, de temps en temps. On n'est plus du tout dans ce modèle, et je pense que aucun secteur d'activité aujourd'hui ne pourrait dire qu'il est dans cet ancien modèle-là. Avant, c'est vrai qu'il y avait certains secteurs qui allaient beaucoup plus rapidement que d'autres, et du coup, ben voilà, les mises à jour, les formations étaient assez fréquentes. Mais aujourd'hui, je pense que ça touche l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, je pense que c'est essentiel pour chacun de se former constamment. Vraiment, je pense que vraiment aujourd'hui, les choses vont beaucoup trop vite
pour ne pas se former. Voilà.
Est-ce que c'est quelque chose que tu inculques est-ce que c'est quelque chose qui transparaît dans l'éducation que tu as chez tes enfants?
Ah oui, bah en fait, tout simplement, ils me voient faire. Hein. Moi, je pense que la meilleure façon de transmettre quelque chose aux enfants, c'est de nous voir faire. Et ils le voient. Ils le voient que je suis totalement tout le temps en train de travailler, enfin de me former hein, concrètement, de passer des examens, des certifications. Donc, ils participent hein, globalement à tout ça. Donc, ils le voient que ben, voilà, là, je vais avoir un examen. Ils voient que je suis stressée. Ils le voient, voilà. Donc, ils participent tout ça. Et donc, ils le voient. Et on voit qu'eux-mêmes, mais je pense que c'est aussi ces nouvelles générations qui ce besoin de, voilà, de toujours en savoir plus sur les choses, de se former de manière assez autonome aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Avant, on se formait beaucoup chez les professeurs, en classe, etc. Mais là, on voit quand même qu'il y a des moyens, en tout cas aujourd'hui avec les outils et avec Internet, de pouvoir se former de manière assez autonome. Donc, on voit bien que ça transparaît énormément chez les enfants. Oui.
Très bien. Écoute, je pense que tu as tout à fait raison, je ne vais pas te contredire sur ça. Moi aussi, je fais beaucoup de formations. Peut-être que je n'en fais pas tout le temps en continu, mais c'est vrai que dans le monde où on vit, si on n'avance pas, on recule, hein, on recule très vite même.
Exactement, c'est ça.
Est-ce que tu aurais des recommandations de livres, de documentaires, de références ou de, voilà, de livres qui t'ont particulièrement marqué que tu voudrais recommander?
Alors, je ne suis pas du tout une grande lectrice, malheureusement, hein, mais il y a vraiment un petit livre que je lis souvent, parce qu'en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, il peut être très intéressant et que vraiment, je peux conseiller pour toutes les personnes, en tout cas, qui travaillent qui sont dans le business et qui ont cette relation avec l'argent qui est constante, en fait, pour pouvoir prendre souvent du recul sur la question. Il y a un petit ouvrage, un petit guide de l'imam Al-Razali qui est l'avarice et l'amour de l'argent et qui reprend pas mal d'informations sur justement notre relation avec l'argent. Donc, c'est un petit livre qui permet justement d'être en prévention aussi de toutes les voilà hein, on parle de l'avarice mais il y a aussi les bons côtés de l'argent aussi qu'il faut mettre en avant et ce juste milieu en tout cas qu'il faut avoir quand on parle argent et je pense que ce petit livre qui est très très facile à lire donne énormément de conseils et donne une vision avec un grand recul sur la question de l'argent et surtout en France où on a vraiment cette problématique à parler de manière générale voilà, des revenus qu'on gagne, de toutes ces choses-là, ça nous permet vraiment d'avoir, de se conforter, de se dire quand on gagne de l'argent, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, mais en tout cas d'avoir ce vrai juste milieu et ça nous donne vraiment des petits conseils et il y a certainement voilà, il y a des petites choses qu'on va garder dans ce livre qui vont nous permettre justement de légitimer notre envie d'avoir de l'argent aussi parce que souvent c'est une problématique réelle aussi hein, dans notre communauté de se dire moi je veux pas être riche ou en tout cas c'est pas mon objectif souvent hein, les gens se justifient un peu de cette manière là non mais moi si je lance mon business moi c'est pas pour être riche c'est juste pour mais non il y a pas de honte à être financièrement riche dans notre communauté. Et l'imam Al-Razali dans ce livre permet en tout cas de donner une vision assez clairvoyante sur la question, ou en tout cas de justifier, de légitimer l'argent et surtout aussi de donner des conseils en prévention aussi des mauvais côtés que peut avoir l'argent sur une personne. Donc, dans les deux sens, je pense que peu importe où on se situe avec l'argent, cet ouvrage permet en tout cas de donner un chemin pour pouvoir se conforter par rapport à notre religion.
Très bien, mais écoute, ça va être un livre vraiment intéressant. J'avais presque terminé l'interview, mais j'ai une petite question quand même qui me vient, vu que toi, tu connais pas mal en investissement, j'ai l'impression, tu investis dans l'immobilier et dans l'or, j'imagine un petit peu aussi. Et comment est-ce que toi, sur quoi tu mises ton investissement le plus je parle pour plus tard. Comment est-ce que tu gères un peu tes investissements? Est-ce que tu as des petits conseils?
Alors, pour être honnête, aujourd'hui, moi, je pense que je suis arrivée à un montant, en tout cas une capacité financière qui me permet justement de pouvoir vraiment être en sérénité complète avec l'argent, puisque j'ai effectivement investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a acheté 3 biens immobiliers, donc qui nous permettent de pouvoir avoir des revenus locatifs. Et pour arriver à ces achats immobiliers, parce que pour moi, quand même, l'immobilier reste la manière de pouvoir générer des revenus le plus correctement possible.
Oui.
Mais pour arriver en tout cas à ces achats immobiliers, on a dû passer par une phase d'épargne qui a été importante. Et l'investissement dans l'or, ben, l'épargne dans l'or en achetant de l'or physique, ça permet justement de pouvoir préparer son épargne et ensuite investir dans l'immobilier. Donc moi, je pense que vraiment, ce modèle-là, en tout cas, enfin, ce modèle que nous, on a utilisé, permet en tout cas, en toute sérénité, de pouvoir accéder à un patrimoine financier intéressant assez rapidement, avec un peu de rigueur, bien évidemment, hein, et d'organisation. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de solutions, en tout cas, qui sont compatibles avec nos valeurs, l'étape épargne et épargner dans de l'or physique sur du moyen long terme, ça peut être très intéressant. Et ensuite, investir dans l'immobilier reste un schéma ou en tout cas une stratégie classique pour les musulmans, en tout cas en France.
D'accord. Donc, si je comprends bien, ce que vous avez fait pour acheter vos biens immobiliers, ce que vous mettiez de côté, en fait, vous le mettiez de côté sous forme d'or.
Exactement.
Puis vous avez utilisé cet argent pour quand vous aviez suffisamment de cash ou d'argent pour investir dans l'immobilier, vous avez revendu votre or et vous l'avez investi dans l'immobilier.
Exactement. Et je pense que c'est un schéma qui peut correspondre, en tout cas, à une majorité dans la communauté, puisqu'on est quand même des personnes, en tout cas en France, où on a une relation avec le risque qui est très, très faible. C'est-à-dire qu'on n'aime pas, on n'aime pas les choses risquées. Bon, après, je pense que c'est notre mentalité en tant que Français avant tout.
Mentalité CDI.
C'est ça. Donc, oui, je pense que c'est en tout cas un modèle qui peut correspondre à beaucoup. Mais encore une fois, voilà, chacun mérite d'avoir une stratégie vraiment personnelle et de définir sa stratégie d'investissement. Mais globalement, je pense que c'est quelque chose qui peut correspondre à beaucoup.
Très bien. Écoute, merci pour ton partage. Rabia, c'était un plaisir de t'avoir accueilli. Ah oui, j'ai une dernière question, heureusement. Il ne faut pas que j'oublie celle-là, du coup. Si une personne, un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail, d'une part, ou bien te poser une question, est-ce que c'est possible?
Bien évidemment. Vraiment, ça, c'est quand même le plus intéressant, je pense, dans mon travail et dans mon activité d'entrepreneur. C'est les échanges qu'on a avec toutes les personnes qu'on rencontre. Hein. Donc, c'est vraiment, je peux passer des heures, en tout cas, à parler avec une personne sur les investissements, sur l'immobilier. Donc, toutes les personnes qui ont vraiment des questions, même très générales, et qui souhaitent des conseils, vraiment, de manière totalement gratuite. Hein. Ils peuvent me contacter sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn ou directement par mail. Il suffit juste de m'envoyer un petit message sur tous mes réseaux sociaux. Il y a mon email et on est à échelle humaine, je pense encore. Hein, donc, c'est avec plaisir qu'on peut planifier un échange téléphonique ou par mail pour répondre aux questions. Si je peux aider, c'est vraiment, vraiment avec plaisir.
Super. Bah, écoute, Rabia, c'était un vrai plaisir de t'avoir accueilli. La conversation était vraiment riche. On a traité plein de sujets hyper intéressants d'entrepreneuriat, d'accompagnement, d'investissement, d'éducation. C'est vraiment complet.
Merci pour ton invitation, Abdelrahman. C'est vraiment, vraiment une belle initiative pour notre communauté de pouvoir proposer ça avec des partages comme ça d'expérience. En tout cas, bravo pour ton travail.
Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de semaine, Rabia. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah, peut-être.
À très bientôt, Inch'Allah. Peut-être à Singapour.
Oui, à Singapour ou en France.
Inch'Allah.
Salam alaikum.
Allez, salam alaikum.
J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.